Pour les Égyptiens, ça avait uniquement un pouvoir divin, avec quand même des vertus un peu thérapeutiques, médicinales, qu'on connaît aussi maintenant aujourd'hui.
Sur le comptoir de Lisanne, c'est le podcast dans lequel on parle de la bière autour d'une bière. Chaque semaine, je rencontre un ou une invitée avec qui j'explore la bière dans tous ses styles, ses influences, son évolution, son histoire et sa culture. Je suis Lisanne Desroches, brand ambassadrice Inkasi, et pour cette nouvelle série de podcasts consacrée aux ingrédients de la bière, je suis allée voir ceux qui les utilisent, manipulent, transforment, les brasseurs. Dans cet épisode, nous explorons avec Vincent de Nomad Brewery l'utilisation ancestrale d'épices et de plantes dans la bière et la façon dont les brasseries modernes ont conservé ou remis au goût du jour cette technique traditionnelle. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Merci de m'accueillir au pub de Nomad. On est dans le 3e arrondissement de Lyon. Là, ici, c'est un lieu de consommation uniquement, mais toutes vos bières sont brassées dans la périphérie lyonnaise. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Avant de commencer le sujet du podcast aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire un petit peu comment toi, tu es tombé dans la bière ?
Un petit peu par hasard et un petit peu aussi par volonté. En fait, avant d'atterrir chez Nomad, j'ai travaillé à la brasserie La Soyeuse, donc qui est à Montalon. Je crois que tu les as rencontrés un petit peu dans d'autres épisodes. Et donc, je n'étais pas du tout dans ce milieu-là. J'étais plutôt dans l'environnement, l'agriculture. Et il y a quand même des gros liens entre les deux, forcément. Et donc, j'ai été formé en fait, directement par Bertrand. Ne sachant pas au début en fait comment on produisait réellement de la bière, juste m'intéressait vraiment au produit fini. Et donc j'ai eu envie de gratter un petit peu, de découvrir ce qu'il y avait derrière. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à La Soyeuse, puis à Nomad, et me voilà aujourd'hui.
Ça fait à peine quelques années donc, que tu es devenu brasseur finalement, c'est une reconversion presque par accident
Oui, par accident, un bon accident.
Oui.
Un bon
accident. Et donc, pour en dire un tout petit peu plus sur Nomad, donc, qui est une brasserie, on va dire lyonnaise, même si c'est pas exactement basé à Lyon, mais on est vraiment juste à côté. C'est une brasserie relativement jeune aussi, qui a été fondée par...
Sam et Lauriane, voilà.
Voilà, c'est ça.
Alors, Sam est originaire de Manchester, un Anglais, à Lyon. Et Lauriane est de Bron, donc du coin. La brasserie, ouais, elle a à peu près 5-6 ans.
Et donc là, on retrouve vos bières un tout petit peu dans la région et un peu ailleurs aussi, je suppose. Ça commence à s'étendre un peu.
Voilà, en fait, donc on a pu ouvrir une espèce de tape room sur Genas, donc directement avec la brasserie derrière, donc c'est super sympa pour les clients. Et après, en dehors de ça, donc ça c'est la vente vraiment directe, quelques mètres d'écart entre la production et le service. Sinon, on a un bar du coup où on se situe actuellement dans le 3e Nomad Micro Pub. Donc on peut distribuer directement nos bières à la pression ou en vente à emporter. Et après on se retrouve dans pas mal de bars sur Lyon, notamment des plutôt axés bar à bière, quelques restaurants, des caves, des cavistes. Voilà, en épicerie aussi pas mal, épicerie spécialisée, plutôt bio, puisque du coup on est passé tout en bio. Tous nos ingrédients sont bio, donc...
Alors on aura l'occasion de découvrir un peu plus les produits tout à l'heure. On va se lancer sur le sujet du jour. C'est le dernier épisode consacré aux ingrédients de la bière. On a fait donc les quatre principaux, je les rappelle, c'est l'eau, le malt, le houblon et la levure. On a fait un petit bonus avec le bois pour découvrir un petit peu les vertus du bois dans la bière. Et là on va aller sur des ingrédients, dans une grande famille d'ingrédients très historiques qui sont les épices et les plantes, on va dire en global. Et on va voir avec toi un petit peu justement cette histoire. Les épices et les plantes, ce sont des ingrédients qui sont utilisés depuis des millénaires dans la bière. C'était même utilisé de manière majoritaire avant même le houblon. À partir de quel moment dans l'histoire on va commencer à avoir des traces justement écrites ou visuelles en tout cas de ces ingrédients ?
Alors oui, effectivement, ça remonte un petit peu. En gros, il y a des sources différentes, mais c'est estimé à peu près vers le deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Donc c'est plutôt les Égyptiens à la base. On a eu des écrits sur tablettes,
C'est des bas-reliefs, voilà.
Voilà, c'est ça. D'utilisation d'épices dans ce qui était en fait l'ancêtre de la bière. On ne peut pas trop appeler ça une bière à l'époque. Donc, ça va être du safran, du gingembre, des épices très locales pour la région. Et au départ, en fait, ça avait uniquement... Enfin, il y avait une sorte de pouvoir divin pour les Égyptiens, et même avant et après d'ailleurs, comment la bière et puis toutes ces épices ont été utilisées, c'était un peu le Saint-Esprit, comme on dit pour nous, mais c'est un peu ça.
Côté mystique, on a toujours autour de la bière, ouais.
Exactement. Et avec quand même des notions des vertus un peu thérapeutiques, médicinales, qu'on connaît aussi maintenant aujourd'hui par des découvertes scientifiques, mais de certaines plantes ou de certaines épices qui ont des bonnes vertus pour la santé. Rajouter à cela en plus la levure, du coup, l'histoire de fermentation qui a aussi, elle, des vertus pour le corps. Donc tout ça avait un intérêt à ce moment-là. On n'avait pas encore découvert le houblon, donc il fallait aussi aromatiser un peu la bière.
Le houblon, ce sera, on l'a couvert un petit peu, ce sera plus avec Saint-Hildegarde, plutôt au Moyen-Âge, qui va recommander son utilisation, où là, il va se populariser vraiment comme la plante de prédilection de la bière. Mais c'est vrai qu'avant, c'était un mélange de plein de plantes différentes qu'on pouvait retrouver dans la bière.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est au Moyen-Âge, ça va un peu changer. Notamment à cause du vin, enfin à cause, je sais pas comment dire, ou grâce, je sais pas. Non, mais il y avait une grosse concurrence du vin en fait à l'époque, donc c'était effectivement, il y avait moins de savoir-faire sur la bière. Et donc, comme tu disais, à l'époque, oui, on avait ce qu'on appelle un gruit. Donc, c'est une espèce de mélange de plantes. Il n'y a pas vraiment de chiffre exact du nombre de plantes utilisées. En fait, c'était des plantes locales, les brasseurs, les brasseuses ramassaient à côté de chez eux sous forme un peu abondante, et dont ils utilisaient aussi certaines parties pour cuisiner, enfin pour d'autres utilisations.
Oui, parce qu'on pouvait retrouver du romarin ou même de la menthe, ouais. Et d'autres plantes aussi, mais des plantes qu'on retrouve encore maintenant dans nos cuisines, nos recettes à nous.
Voilà, c'est ça. Et du coup, c'était assez intéressant à l'époque parce que c'était lié aussi à la région géographique. En Bretagne, je sais pas, ils pouvaient avoir plutôt de la bruyère ou des choses ou de la gentiane, des choses très typiques de là-bas. Dans le sud de la France, ce serait plutôt comme tu disais, du romarin, du thym, du laurier, voilà, plein d'espèces un peu plus méditerranéennes.
Ça fait les premiers styles de bière finalement où devait y avoir un style breton, un style alsacien, un style un peu plus du sud, donc simplement avec les plantes qu'ils pouvaient trouver autour. Ouais.
C'est ça, c'est vraiment une typicité du territoire. Maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu moins le cas, on va dire, même s'il y a pas mal de brasseries qui se relancent un peu dans le délire gruit.
Et c'est très bien parce que c'est très bon le gruit.
Oui, c'est très bon aussi. Non, c'est vraiment cool de pouvoir revenir un peu à l'histoire de tout ça avant que du coup le houblon envahisse. Et on le sait maintenant, c'est une grosse part de la bière.
Des fois, ouais, c'est un peu prédominant même. Ouais.
Oui, pour les gens, c'est un peu la bière effet du houblon. Mais non,
c'est pas vraiment ça.
C'est pas vraiment ça.
Oui, on dit le houblon, c'est l'épice de la bière finalement.
Ouais.
Donc c'est quand on fait un plat, je compare toujours avec la cuisine, on met un petit peu d'épice, c'est pas la dominance vraiment de l'épice. Et des fois, bah, c'est vrai que certaines bières maintenant qu'on retrouve peuvent être très 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 houblonnées.
Très chargées.
Ouais, très chargées.
Bah, c'est ça, c'est un peu la mode aussi qui veut ça, c'est les Américains, je pense qu'ils ont quelques années d'avance, en tout cas pour cette mode-là. Et
puis qui ont des houblons très puissants,
ouais,
en plus.
Voilà.
Ouais.
Ils nous ont un peu inondés là-dessus, donc on suit parce qu'on est un petit peu en retard. Et puis voilà, mais c'est bien qu'il y ait d'autres choses. Voilà, jouer un peu avec les épices. Bah, de toute façon, je suis assez d'accord avec toi, la bière, le brassage, c'est de la cuisine. Donc si on est bon cuisinier, si on voit les accords qu'on peut avoir en cuisine, on les aura dans
la
bière, il n'y aura pas de
soucis. Faut que ce soit équilibré.
Voilà.
Alors, on a parlé des plantes. Un autre ingrédient, on va dire, entre guillemets, ce sont les épices aussi. Donc, on a parlé chez les Égyptiens avec le safran, comme tu mentionnais, ou d'autres. Mais y a des voisins à nous, pas si loin de chez nous, qui utilisent historiquement des épices et encore maintenant de nos jours. Ce sont, par exemple, les Belges qui utilisent beaucoup d'épices dans leur dans leurs recettes. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme, comme type d'épices chez eux, typiquement?
Les bières belges sont plutôt, notamment les wheat beers, plutôt les bières blanches, enfin blanches, de blé, pardon. J'arrête ça. Les bières de blé belges, on retrouve pas mal de coriandre. La coriandre, je pense que c'est vraiment le truc central, l'épice centrale des Belges, on va dire, de la brasserie belge en général. Après, il y a pas mal d'utilisation de tout ce qui est écorce de fruits, c'est-à-dire, bon, là, on part plutôt sur les fruits, mais
agrumes
c'est un peu
aussi,
dans le même,
ouais.
Voilà,
ouais.
C'est un peu dans le même style, écorce d'orange amère ou non, douce, citron, enfin. Voilà.
On retrouve ce côté, les wheat beer, comme tu disais, peuvent être un petit peu justement légèrement acidulés et les agrumes, en tout cas les zestes d'agrumes vont renforcer un petit peu ce côté acidulé.
Voilà.
Et puis on peut retrouver, oui, il y en a tout plein d'autres, que ce soit des graines de paradis ou même du clou de girofle et bien d'autres.
Ouais. Voilà un peu ce qu'on retrouve aussi nous dans nos bières de Noël, de garde. Qui sont originaires plutôt du Nord et de la Belgique, et où eux, c'était plutôt un mélange de ces épices-là, enfin ça en fait partie.
On est en plein dans la saison en plus de Noël, on est en plein la cannelle, les clous de girofle, voilà, typique
la
de voilà la muscade qu'on retrouve dans cette grande famille des bières de Noël qui veut un peu tout rien dire finalement.
Voilà.
Mais c'est vrai que généralement ce sont des bières qui sont épicées, voilà, c'est ce qu'on retrouve, et ces épices qui font penser un peu à un vin chaud finalement, qui est un peu de l'anis aussi des fois. Donc voilà, tous ces épices qui peuvent être assez intéressants pour Noël. Alors, on a parlé de ce qu'on pouvait retrouver dans la bière. Maintenant, on va parler de comment on s'en sert au niveau du brassage. À quel moment, en fait, un brasseur va utiliser des épices ou des plantes dans sa bière au niveau du brassage?
Alors, au niveau du brassage, on a plusieurs méthodes d'utilisation. Déjà, il y a la forme. Sous quelle forme on va utiliser les épices? Ça peut être en poudre, ça peut être sous forme naturelle, en graines si c'est des graines de coriandre, en étoiles de badiane si c'est des étoiles de badiane. Ça peut être séché, vert, pour tout ce qui est plante plutôt. Nous, on utilisera davantage le séché, sachant que le vert peut quand même moisir. Enfin, il y a d'autres contraintes, on va dire.
Oui.
Après, au niveau de l'utilisation à proprement parler, en fait, ça se fait, nous en tout cas, on l'utilise essentiellement au moment de l'ébullition, en fait. En fin d'ébullition, au niveau du brassage, au moment où on met les derniers houblons un peu aromatiques, on va ajouter ces épices, donc gingembre, coriandre, pas mal de poivre, ça peut être du poivre, ça peut être un mélange 4 baies, ça peut être voilà, tout ce qui est comme ça. Toutes ces épices-là, on va les ajouter plutôt à la fin. On l'utilise aussi pour une de nos bières de la camomille, donc ça on va le mettre sur toute l'ébullition. On l'utilise sous forme de fleurs.
Vu que c'est peut-être plus doux, il faut vraiment venir puiser longtemps.
Ouais. Et ça n'a pas trop tendance à changer de comportement avec l'ébullition. Mmh. Parce que ça c'est un peu un problème aussi de pas mal d'épices, c'est que avec l'ébullition, on peut avoir de l'astringence, on peut avoir des choses comme ça, et ça, c'est pas vraiment recherché. Parce que, au final, ça, c'est vraiment pas terrible à la fin.
Donc oui, je compare souvent la période d'ébullition et quand on met le houblon à un sachet de thé, en gros, et que si on le met très longtemps, souvent l'ébullition peut durer une heure et demie, là, dépendamment des brasseurs, bien on va avoir un thé qui est trop infusé, donc très fort, un peu tannique, un peu astringent, que si on le met juste... pendant 15 minutes, normalement c'est... Je sais qu'en plus Nomad est fondé par un Anglais, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis sur le thé. C'est très, très technique chez eux. Mais c'est vrai que un sachet de thé, faut le laisser un temps bien donné pour avoir vraiment l'extraction parfaite des notes aromatiques. Et juste l'aromatique parfaite en bouche également, donc... Ça doit être très technique, trop longtemps, ça va aller puiser trop de notes, et pas assez, ça va pas se ressentir finalement assez.
On a aussi la méthode à froid, donc en dry spicing, je sais pas si c'est pas
comme
vraiment
le dry hopping,
si on peut le dire.
Dry
voilà.
Spicing, ouais.
je l'ai inventé, allez, on dit que je l'ai inventé. Donc à froid, plus ou moins froid d'ailleurs, ça dépend de l'épice en question ou de l'herbe en question. Mais notamment, comme tu disais, pour le thé, c'est vachement intéressant parce que ça permet de pas trop avoir d'astringence. Après, il ne faut pas le mettre trop longtemps. Voilà, c'est tout un calcul aussi à réaliser. Mais c'est intéressant sur des sur de la verveine, sur des plantes un peu séchées comme ça qui sont la mélisse aussi, ça peut être c'est assez intéressant parce qu'on va vraiment développer un peu la douceur de la plante et et ça ressort bien au final.
Alors chez Nomad justement, donc vous avez pas mal de différentes bières dans votre gamme, on va dire un peu éphémère, qui justement utilisent tout plein d'ingrédients spéciaux comme des épices ou des plantes. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus de comment déjà d'où ça vient cette envie peut-être de faire beaucoup de bières assez spéciales comme ça
On veut toujours faire des bières équilibrées. C'est un bon moyen d'y arriver, les épices, notamment pour connaître un peu ses limites. Pour pas en mettre trop. Voilà, donc c'est à la base un peu pour ça, et puis parce qu'on aime les épices aussi, tout simplement, et qu'on peut aller, on peut faire voyager quand même pas mal avec peu de choses. La plus connue qui nous représente le mieux, c'est la Stormy Nutty Cup. Donc ça va être une ESB, donc
une bière très britannique.
Voilà, très britannique. Elle est censée être très amère, elle ne l'est pas exprès. Et du coup, dedans, on a fait infuser à froid du thé Earl Grey, donc on aura un goût de bergamote assez prononcé, sans l'astringence, c'est important, parce que ça peut faire un peu peur aux gens quand on le dit comme ça. Donc là, une bière vraiment typiquement anglaise, pour le coup, on a la patte de Sam complètement ancrée là-dessus. On a aussi, par exemple, une Bombay Brown Ale, donc ça va être une petite brune légère à la cardamome. Donc on va ajouter à ce moment-là la cardamome plutôt à l'ébullition, sous forme de graines concassées, en fait, tout bêtement. Et c'est pareil, là, le dosage est hyper important parce que trop de cardamome, c'est vraiment...
Ça peut être très puissant, ouais, quand même.
Ouais. On a l'impression d'être dans un plat indien après, donc c'est compliqué.
Là, vous voulez juste faire un clin d'œil aux Indes, donc voilà.
C'est ça, c'est juste un clin d'œil. Et après, dans nos bières un peu plus classiques, on aura la sodade, où on va avoir du gingembre, de la coriandre... ou la nuit blanche, où on aura de la camomille, donc j'en parlais tout à l'heure, et également du miel. Donc on n'a pas parlé du miel, mais...
Ça peut
rentrer aussi dans tout ça. Après, bah, tu disais tout à l'heure, tu parlais de la bière de Noël, donc là, effectivement, en ce moment, on a une bière de Noël, dans laquelle on a toutes les épices un peu de Noël qu'on retrouve au final dans les pains d'épices, dans d'autres choses, d'autres produits un peu de saison. Muscade, coriandre, badiane étoilée, clou de girofle, cannelle, voilà. Tout ce qui réconforte bien à Noël, c'est ça.
Près du feu avec une raclette, voilà.
C'est ça, c'est meilleur.
Alors, quand je suis arrivée tout à l'heure, on a un petit peu échangé et tu m'as titillé la curiosité avec une recette que tu es en train d'élaborer de ton côté. Donc, tu me disais que tu étais en train ou tu avais fait un gruit.
Oui, c'est tout chaud de ce matin. En fait, j'ai pas encore brassé. J'ai créé la recette. Donc, avec un mélange de 4 plantes, une millefeuille, baie de genièvre et de l'ortie.
Ok.
Voilà, une première expérience là-dedans. On va déjà la tester en petit volume et pour ensuite, si tout se passe bien, pouvoir envoyer un petit peu plus. J'ai hâte de voir ce que ça donne et de faire goûter ça ensuite.
Tu m'enverras une bouteille.
Voilà.
Justement, on va passer à la dégustation parce que là, on a parlé de toutes ces bonnes bières et j'ai bien envie d'en déguster une. On a parlé de plein de bières qui ont des épices et des plantes chez Nomad et on va déguster un peu leur emblématique, on va dire, la fameuse...
Stormy Nutty Cup, ouais.
La ESB. Qui est une bière, qui est très emblématique de l'Angleterre, parce que c'est pendant longtemps, ça a été une appellation de Fuller's, donc qui est une brasserie anglaise. C'est une bière, on va dire, ambrée, hein, de couleur, qui est très amère, en fait, finalement. Hein, c'est une bitter anglaise. Et celle-ci, elle est avec du thé Earl Grey, c'est ce que tu me disais tout à l'heure.
Ouais.
Ça, c'est une de vos bières permanentes ou c'est une bière...
C'est une bière éphémère permanente.
Non, vous faites tout le temps, quoi, c'est ça.
Officiellement, on n'est pas, on ne donne pas l'obligation de la faire tout le temps. Elle fait partie de la gamme éphémère. Seulement, elle marche tellement bien qu'on la fait quand même quasiment en permanence.
Donc, on a cette... je décris parce que... Nous... Nos auditeurs ne peuvent pas la voir, c'est vrai, mais ça, à chaque fois que je le dis, hein, la bière, ça se déguste également avec les yeux. Donc on a vraiment une belle teinte cuivrée, une belle transparence aussi, avec des bulles super fines, en tout cas, une jolie mousse. Et je viens de juste d'y plonger le nez. C'est vrai qu'on retrouve cette bergamote qui n'est pas puissante, hein, elle est là, elle est juste délicate. Ça peut être des notes qui sont des fois un peu fortes, donc c'est vrai que là, on l'a juste... qui nous rappelle qu'il y a un petit peu de thé dedans, Earl Grey, ouais.
Ouais, c'est vraiment floral, floral non agressif.
Oui, c'est ça, ouais. Oui, il y a un petit côté, ça c'est générique, mais dire un petit côté thé noir en fait aussi derrière, pour ceux qui aiment bien le thé noir, on retrouve un petit peu ces notes-là, mais c'est vrai que c'est très délicat. Alors après, on va goûter. Il y a un poil d'amertume, on n'est pas non plus sur une agressivité qu'on pourrait retrouver de l'autre côté de la Manche. Oui, voilà, parce que les Anglais sont... très fort sur l'amertume, mais on retrouve, c'est vrai qu'on sent bien le thé, moi je l'ai bien, bien en bouche, ce côté thé noir un peu présent, un peu à la frontière entre le Earl Grey, puis limite un peu le English Breakfast aussi que j'aime bien de temps en temps. Ouais.
Oui, c'est un peu ça, c'est, le côté bergamote rajoute un peu du coup du côté thé noir, je trouve, et t'as le côté un peu très anglais en plus. Je trouve qu'il y a un corps qui est intéressant au niveau du malt, parce qu'il y a
on a la céréale, c'est malté,
ouais. On croirait pas en fait, souvent c'est vrai que quand on a une bière un peu translucide, enfin ou à travers, on se dit bon, ça va pas être très malté, en fait non, c'est bien malté, quoi.
Ouais. On a combien de degrés sur celle-ci d'alcool, juste pour...
4,5.
Bon, c'est parfait, voilà, une bière anglaise, voilà, qui se boit...
C'est ça, toute la journée.
Voilà, c'est ça, en grande quantité au pub, hein, comme ils font chez eux. Et puis, vraiment, ouais, qui irait super bien aussi, ça remplacerait bien à l'afternoon tea, justement, avec des petits scones, et pour remplacer le thé... manger ça avec des sandwichs au concombre, voilà.
C'est ça.
Je connais bien, j'ai vécu un peu là-bas, donc...
Ouais, la fameuse gastronomie. Je connais pas, mais juste de loin, ça.
Non, mais s'il y a bien un truc bien chez eux, c'est bien l'afternoon tea, ça. C'est quand même un grand moment avec les petits gâteaux, le thé, les scones, ouais. C'est quelque chose de grandiose, généralement. Bon, bah, merci beaucoup, Vincent, de nous avoir fait découvrir les épices et puis les plantes dans la bière. On a bien hâte de découvrir ton gruit. Donc, tu nous feras signe quand il sera disponible.
Pas de souci.
On le partagera avec nos auditeurs. Et puis nous, on se retrouve l'année prochaine pour des nouveaux épisodes. Donc, Vincent, merci encore et puis à bientôt.
Merci, passe de bonnes fêtes.
Oui, et bonne année.
Merci.
Au revoir. C'était Sur le comptoir de Lisanne, un podcast Ninkasi Stories. Nous avons terminé notre série sur les ingrédients. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année et nous, on se retrouve en 2022 pour une nouvelle série de podcasts. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et de partager cet épisode avec un ou une amie que cela intéresserait. Je compte sur vous. À la prochaine. Thank you.